Nous reprenons la séance et nous allons continuer et nous allons commencer la deuxième partie de la séance en entendant donc Monsieur Saverio Campanini sur le thème donc des oiseaux à la langue percée sur une parabole zoharique.
Merci beaucoup. Nous vous écoutons. Merci. L'ébruissement. Quelle suggestion pour quelqu'un qui s'occupe des cabales. Une pousse à l'oreille, pour ainsi dire, qui invite à réfléchir sur la relation entre articulé et inarticulé dans la mystique juive. Mais bien évidemment, il s'agit d'un thème trop vaste pour pouvoir être traité d'une façon convenable dans les temps qui nous est donné. J'ai préféré pourtant concentrer les regards et bien sûr l'écoute sur un passage fascinant du Zohar, le texte le plus important de la courant théosophique de la Kabbale. Dans ce passage, comme on va l'entendre tout de suite, il s'agit des oiseaux et de leur langue. Le thème de la langue des oiseaux, comme celui du taraudage, c'est-à-dire l'acte de percer les mystères, de creuser la matière dure à la recherche du sens caché, n'est certainement pas exclusif de la culture juive. Bien au contraire, il s'agit d'un motif qui traverse toute la culture mantique ancienne et trouve son expression la plus répandue et articulée dans l'univers de la pensée et de la pratique médiévale dans l'ensemble de l'ère méditerranéenne. On peut renvoyer, pour ne citer qu'un exemple très bien connu, à la conférence des oiseaux, le langage des oiseaux, Mantik al-Tahir, du poète et mystique soufi persan du IIe siècle, Farid ad-Din Attar. Plus spécifique néanmoins semble la référence, on va le comprendre dans un instant, du récit fantastique attribué à un Yamboul par Diodore de Sicile, qui parle d'une île utopique à 4 mois de navigation de l'Éthiopie, dont les habitants ont la langue fendue. Ils amplifient ces phénomènes naturels grâce à une opération qui leur rend la langue double jusqu'à la racine. Ils deviennent ainsi capables d'imiter tous les sons des langues du monde et par-dessus le marché aussi de reproduire les polyphonies des oiseaux. Ils étaient capables d'entretenir 2 conversations au même temps sans jamais se confondre. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le thème de la langue double, des 2 langues, de la langue presque inarticulée ou bien presque articulée, est aussi la question de la capacité de la langue percée de dire vrai, même contre les intentions du locuteur, sous le modèle du Balaam biblique, qui, convoqué pour maudire, se voit contrainte par l'entremise d'un animal parlant, d'un autre animal parlant, la célèbre ânesse, à réciter une bénédiction après l'autre. Or, pour venir au texte qui nous intéresse, il faudra partir de celui qui a invité Balaam, le roi de Moab, Balak. Dans la péricope Balak du Zohar, commentant sur le chapitre 22 des Nombres, on lit, et je vais citer, je m'en excuse d'ores et déjà, un texte relativement long, mais il me semble nécessaire. On lit dans le Zohar, « Et Balak, fils de Sephor, vit. » C'est Nombres 22. Rabbi Simeon demanda, qu'est-ce qu'il vit ? Il s'agit d'une vraie vision. Il vit à travers de la fenêtre de la sagesse, mais il vit aussi de ses propres yeux. Il y a une fenêtre de la sagesse, ainsi qu'il est écrit, et Abimelech, roi des Philistins, regarda par la fenêtre. Qu'est-ce que cela signifie par la fenêtre? Ainsi qu'il est écrit, la mère de Sisera regarda par la fenêtre, dans le livre de Juges. C'est certainement la fenêtre de la sagesse, aux marges des étoiles, qui sont les fenêtres de la sagesse. Il y a une fenêtre où sont toutes les formes de la sagesse, par laquelle regarde tout ce qui contemple l'essence de la sagesse. Justement, et Balak vit à travers sa sagesse. L'explication des mots « fils de Sephor » a été déjà donnée dans Zohar 3:196. Mais il était vraiment fils d'un oiseau, en hébreu « tzipor », à l'aide duquel il pratiqua toutes ses magies. Il prit un oiseau, frappé tout autour de lui avec des herbes, il fit voler l'oiseau dans l'air. Il performait des actes, chuchotait des incantations, et l'oiseau retournait vers lui avec des herbes dans le bec, pépillant vers lui. Il les mettait dans une cage et brûlait de l'encens devant lui, et l'oiseau lui faisait savoir des choses. Balak faisait ses magies, l'oiseau pépillait, et s'envoler vers celui qui a toujours les yeux ouverts, c'est Dieu, qui l'instruit, et il retournait. Tout ce qu'il faisait se passait par l'entremise de l'oiseau. Un jour, Balak performait ses actes et l'oiseau s'envola, mais il ne retourna pas, ce qui l'attrista grandement. D'un coup, il vit une flamme qui poursuivait l'oiseau et lui brûlait les ailes. Alors, il vit ce qu'il vit et il commença à craindre Israël. L'objet de la vision de Balak, c'est la puissance d'Israël. Quel est le nom de ces oiseaux, continue le Zohar. Yadoua, ça veut dire connu, su en hébreu. Tous ceux qui savaient comment utiliser ces oiseaux n'étaient pas à la hauteur, lo yed'in, du savoir magique de Balak. Toute sa sagesse, en araméen, dans le texte araméen, yeda, venait de ces oiseaux. Voilà ce qu'il faisait. Il se prosternait devant l'oiseau, il brûlait de l'encens et se couvrit la tête. La tenant en bas, il gémissait. Il disait « le peuple » et l'oiseau répondait « Israël ». Il suggérait « beaucoup » en hébreu « me'od » et l'oiseau « puissant » ou bien « nombreux » « rav ». En raison du maître, rav, c'est Moïse, qui marchait parmi eux. Ils pépillaient l'un l'autre 70 fois. Ils disaient « peuvre » et l'oiseau répondait « puissant ». Ils commençaient à craindre, comme il est écrit, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Certainement, il était nombreux. Dans la sorte de magie ou dans le livre de magie de Casdiel l'Ancien, nous avons trouvé que ces oiseaux étaient fabriqués à des moments précis, d'argent mêlé avec de l'or, la tête d'or et les becs d'argent, les ailes de bronze mêlées avec argent, le corps d'or avec des pointes d'argent, les pieds d'or. On met dans sa bouche la langue de l'oiseau Yadoua. Ils mettent les oiseaux sur une fenêtre exposée au soleil pendant la nuit en faveur de la lune. Ils brûlent de l'encens et accomplissent des actes magiques. Ils conjurent le soleil et la lune pendant 7 jours. À partir du 7e jour, la langue commençait à remuer dans la bouche de l'oiseau. On perçait enfin la langue de l'oiseau avec une aiguille d'or et l'oiseau énonçait lui-même de grandes choses. C'est grâce à ces oiseaux que Balak savait, Yéda, tout ce qu'il désirait savoir. C'est pour cette raison qu'il est appelé fils de Sephor, fils de Sephor, fils d'oiseau, et qu'il vit ce que les autres n'arrivaient pas à savoir ni à voir. Fin de la citation talmudique. Je vous demande pardon encore une fois pour la longueur de ce passage, mais il me semblait inévitable de citer entièrement la péricope pour donner une idée du contexte dans lequel se développe cette exégèse zoharique. Maintenant, on a accumulé un grand nombre de questions et de points qui desservent d'être éclaircis. On peut commencer par le très curieux nom de ces oiseaux magiques dont on parle dans le texte. Yadoua, c'est-à-dire connu, su, rappelle l'idée d'un euphémisme, de quelque chose qu'on ne nomme pas par peur de révéler ce qui est défendu. En réalité, les noms semblent plutôt dérivés par extrapolation d'un terme rare qui apparaît dans la Bible, dans le livre du Lévitique 19:31, un commandement négatif interdisant de consulter les nécromanciens et les devins. « Ne vous tournez pas vers les spectres et ne recherchez pas les devins, ils vous souilleraient. » Le nécromancien est appelé Baal-Ob et les idonies, c'est les devins. La littérature rabbinique, en particulier le Talmud, dans le traité Sanhédrin 65b, a posé la question du signifié de ces noms, le nom idonie, et a proposé des pistes pour voir dans les idonies un adepte d'une sorte de magie ou divination pratiquée à l'aide d'un os. C'est très curieux, mais pas sans intérêt pour notre questionnement, le contexte dans lequel se développe l'explication du terme « idonie ». Il s'agit d'une discussion sur les faux témoignages involontaires et sur sa juste sanction. Normalement, une offrande d'expiation est prévue pour toute faute involontaire. Néanmoins, selon Rabbi Zera, le cas du faux témoignage est différent, parce qu'il n'implique aucune action. C'est-à-dire, on offre une offrande d'expiation seulement pour les actions. Mais le faux témoignage ne semble pas être une action. D'autre part, on objecte, il y a toujours une intention, mais, observe Rabat, le cas est différent, parce que la faute passe à travers les sons, la voix, en hébreu, « kol », c'est-à-dire les mots du témoin. Or, Rabbi Yochanan considère que même les sons proférés par les témoins peuvent être assimilés à une action concrète, à cause du mouvement des lèvres, comme dans le cas de ceux qui chassent ou bien guident un animal avec sa voix, par exemple pour le voler. Le rabbin Reish Lakish s'y oppose, en jugeant que la voix ne correspond pas à une action. Ça veut dire qu'elle ne comporte aucune offrande d'expiation. Rabbin répond que le cas du faux témoignage est différent, parce que les péchés se vérifient plutôt, non pas dans la voix, mais dans la vision, ce que les témoins déclarent avoir vu. Et la vision n'est aucunement une action. Or, il serait déjà suffisamment approprié de nous étendre sur la nature de la voix et de la vision, si c'était une action ou pas, et sur le statut d'un témoignage faux mais involontaire, qui, pour être de bonne foi, ne ressemble pas même à un péché. Mais passons. Même Balaam, appelé par Balak, peut être décrit comme un témoin involontaire de la vérité. D'autre part, ces mots de bénédiction et ces prophéties, comme les mots de son ânesse, sont une action à part entière, ce qui les bouleverse. À ce point de la discussion talmudique, on pose la question de la nature précise du Baal Hob en le décrivant comme une sorte de ventriloque et du Idoni, défini comme un devin qui met à la bouche un os d'un Yadoua. Et ce dernier, l'os, parle de soi-même. Or, le Talmud ne dit pas explicitement qu'est-ce que c'est un Yadoua, mais il laisse champ ouvert, il laisse libre cours à l'activité exégétique des commentateurs. Rashi, par exemple, est très sèche, très sobre, en expliquant que les termes se réfèrent à un animal sauvage, Chaya. Mais on registre aussi d'autres solutions qui ont déchaîné la fantaisie médiévale. En particulier, il y a une interprétation du mot Yadoua qui a, connu une vie ultérieure parmi les chrétiens. Il faudra dédier à cette solution une certaine attention dans la suite, surtout sur la base des recherches qui ont été menées par François Secret. Dans un traité sur les 73 commentaires, les juifs convertis, Paulus Ritius, ou Paolo Ricci, interprètent le Yadoua comme une sorte d'homme végétal. Ce serait à partir de ces zoophytes qu'on peut achever la prophétie. Le même texte se trouve et exerce une influence importante dans le De Occulta Philosophia de Cornelius Agrippa de Nettesheim, 1531-32. Mais aussi dans les Inscripturam Sacram Problemata de Francesco Zorzi. Or, en parlant d'un animal fantastique, on n'est pas surpris de trouver d'autres contributions à l'inexactitude. Par exemple, Ricci avait parlé d'un rabbin qui soutenait la thèse que le Yadoua était l'homme végétal en le citant comme Moïse Cusensis, comme source de la légende. Et Claude Duré, dans son histoire admirable des plantes, en fait un Éthiopien, interprétant le mot Cusensis comme venant de l'hébreu Kush, ça veut dire Éthiopie. En effet, il s'agit plutôt du célèbre rabbin Moïse de Coucy, en Picardie. Ça n'a rien à voir avec l'Éthiopie. En outre, la source de Moïse de Coucy, Rabbi Shimshon, ou Simson, est devenue chez Duré, mais aussi chez Blaise de Vigenère, Siméon, et pas Simson. Ce qui nous révèle qu'ils avaient tous utilisé l'édition de Pistorius du traité de Ritius, qui est apparu en 1587, où la coquille apparaît pour la première fois. Une autre faute concerne la forme du zoophyte. Chez Duré, l'homme plante est devenu plutôt un agneau. Et ça correspond très bien à l'histoire des zoophytes et des hommes plantes, parce que là, il y a le fameux agneau des Tartaries, dont on va parler dans un instant. Déjà, Angelo de Gubernatis, comme Secret l'a rappelé, évoquait en parlant du baraniez, c'est l'agneau plante de la Russie, la facilité dans certaines langues de confondre augelletto, petit oiseau, avec agnelletto, brebis, ou encore les mots latins ovicula et avicula, ou bien les correspondances sanscrites avi, ça c'est brebis, et vi, oiseau. En traitant d'étymologie, on a souvent l'impression d'entendre les oiseaux. Ou est-ce que c'était un zoophyte, l'oiseau yadoua, connu et mystérieux en même temps. Le mélange entre homme et agneau est accompli, ou si on préfère laisser sans décision, dans les commentaires aux images de Philostrate écrits par Blaise de Vigenère, publié au début du XVIIe siècle. Je cite un peu le texte de Blaise de Vigenère. Les Hébreux ont, ont deux espèces de cabales ou philosophies traditives de main en main. L'une qui est des choses intellectuelles qu'ils appellent des Merkava, comme est ce qui traite Ézéchiel au premier chapitre, l'autre des Bereshit, de la création ou des choses naturelles, à propos de quoi les anciens ont estimé qu'il y avait des minéraux, végétaux, animaux qui pouvaient de beaucoup servir aux prédictions. Dont Rabbi Moïse Cusin, c'est Moïse de Cusi, en ses commentaires sur les Lévitiques, selon qu'il allègue Rabbi Siméon dans le Talmud Yerosolimitain, raconte de certains zoophytes ou plantes animales, en un mot, plantes animales, appelées yedoua, qui a face d'homme et les corsages d'agneau. Attaché à la terre, d'où il souce partie de sa nourriture par une forme de cordelette partant du nombril, et autant que se peut estendre cette cordelette semblable au rinceau des sourges, au colloquintes, des courges aux colloquintes, il broute, pète et dévore tout ce qui est autour de lui d'une si grande agilité continuelle qu'il se désrobe presque de l'aveu. Et s'il n'y a, si qu'il n'y a autre moyen de l'atteindre, si ce n'est qu'à coup perdu de forces très ferrées en forme de ciseaux, bien tranchants des scotchés d'une arbalestre, on arrive à couper cette cordelette au boyau. Lors, en prenant l'un de ses os, des dents la bouche, avec certaines cérémonies, soudain, l'on entre en fureur et prédit-on les choses futures. Ce qui manque dans toute la tradition chrétienne à ce sujet est, comme on le voit, l'identification du yadoua avec un oiseau. Bien qu'on puisse observer un certain syncrétisme entre l'homme-plante de Moïse de Cusi et l'agneau au Baranietz qui apparaît déjà dans Ramuz. Du reste, l'agneau scythe, ou bien de Tartarie, a connu une fortune extraordinaire, que je ne peux même pas commencer à raconter ici, mais qui présente des motifs de très grand intérêt d'Athanasius Kircher et Jules César Scaliger jusqu'à Denis Diderot, qui, dans l'encyclopédie, en fait un cas exemplaire des méthodes à propos de ce que mérite notre foi parmi les histoires d'animaux fantastiques qui nous ont été transmis par l'Antiquité. Dépendant d'un modèle seul, il y a sous un modèle semblable à celui Diderot, on a un article paru en 1901 sur la revue Les Naturalistes d'Emmanuel Derriols, Les plantes, nombreuses superstitions auxquelles elles ont donné lieu, qui s'inquiète pour ces témoignages jusqu'il trouve la paix. Pouvant indiquer que la plante fabuleuse existe en réalité, avec les sceaux inconfutables du nom linéen, Polypodium barametz. Comme ça, la plante existe et la légende trouve la réalité. Mais pourrait-on peu malicieusement demander qu'en est-il de la prophétie ? Et non différent est le parcours intellectuel d'un représentant de la Wissenschaft des Judentums, de la science du judaïsme, Erich Finck, dans la Monatsschrift für die Wissenschaft, Geschichte und Wissenschaft des Judentums, qui revêtit d'objectivité la présupposition apologétique, son projet apologétique de défendre les maîtres de la Mishnah, de l'accusation d'avoir cru à une fable. Il essaie d'émander les textes du Talmud Jérusalemitain, le Talmud de Jérusalem, et trouve lui-même la paix en référant le nom linéen de la plante. La plante existe et s'appelle Polypodium barametz. Je suggère alors de reprendre le parcours indiqué par Ritschus et d'aller voir ce qui se trouve dans les Sefer Mitzvot Gadol, dans les livres de Moïse de Koussi. En effet, c'est là qu'on identifie les Yadoua avec l'homme-plante, qui a dans les nombrils ce seul point de vulnérabilité. Chez Moïse de Koussi, on trouve aussi la référence qui était encore présente dans les textes latents de Ritschus, le premier qui a proposé l'identification du Yadoua avec l'homme végétal, c'est-à-dire Simson des sens, dit de Jérusalem parce qu'il y est allé vers la fin de sa vie, et qui est modifié, comme je le disais, ensuite en Simon. L'école franco-allemande des talmudistes est alors très clairement divisée entre Rashi, qui se limite à identifier les Yadoua dont parle le Talmud et qui est indiqué comme ayant un os, il doit s'agir alors d'un animal, avec un minimum rationaliste. Les magiciens, dit Idoni, Rashi, ce sont ceux qui déposaient un os d'un animal appelé Yadoua dans leur bouche et l'os parlait. Si on pose la question de l'origine, à savoir d'où vient l'idée que les Yadoua soient un oiseau, comme on les lit dans le Zohar, on ne trouve des sources plus anciennes que Moïse Maïmonide, 12e siècle, lequel en parle à plusieurs reprises, dans son commentaire arabe à la Mishnah, dans son Sefer HaMitzvot, une liste de commentés des commandements, et plus longuement dans les Mishnah Torah, où on lit « Pour ce qui est du Idoni, c'est celui qui dépose un os d'un oiseau appelé Yadoua dans sa bouche. » Il brûle de l'encens et accomplit d'autres pratiques magiques, bien entendu, jusqu'à tomber dans un état extatique et à prédire de sa bouche des événements futurs. Il s'agit là d'une forme de culte des étoiles, Avodah Zarah, Avodat Kohavim, contre lesquelles il y a l'avertissement de la Bible de ne pas consulter les nécromanciens ou les devins. Maïmonide est le premier à proposer l'identification du Yadoua avec un oiseau, en nous donnant aussi une description rudimentaire des pratiques magiques et de l'obtention de l'extase pour permettre l'enthousiasme prophétique. En plus, tous les auteurs plus tardifs qui font référence à l'identification du Yadoua comme d'un oiseau dépendent très clairement des Maïmonides et la plupart les citent même. Cela a amené Louis Ginsberg, dans son célèbre livre « The Legends of the Jews » à la conclusion suivante. En considérant que les Zohar, prétendument écrit ou au moins transmis oralement depuis le deuxième siècle de notre ère, présente, comme on l'a vu, la même interprétation du Yadoua comme oiseau, son auteur doit dépendre des Maïmonides. Et pourtant, il ne peut pas être plus ancien que ces derniers. Dans d'autres mots, le Zohar se révèle, même dans ce petit détail, comme un livre médiéval et pseudo-épigraphique. Il est très intéressant de voir dans l'exemplaire de Gershom Scholem, le grand historien de la Kabbale, qui avait l'habitude de faire relier ses livres d'études les plus importants en y ajoutant des cahiers blancs pour avoir suffisamment de la place pour ses copieuses annotations, dans son exemplaire du Zohar, l'édition de Joseph Hoff 1873, publié en facsimilé en 1992, les remarques qu'il a dédiées à la question du Yadoua. Si je ne me trompe pas, elle documente les changements d'avis qui a marqué les premières années d'enseignement de Scholem à Jérusalem dans les années 20 du XXe siècle. Dans un premier moment, il observe que la thèse de Ginsberg sur la possibilité d'utiliser les Yadoua oiseaux comme preuve de l'origine médiévale du Zohar n'a aucun fondement, un kol yesod. Sauf se corriger en réversant complètement son opinion après une rature, sur ce texte qu'on lit quand même, on lit en hébreu « Veyesh yesod ». C'est bien fondé. Oulai Ginsberg Tzadak, peut-être qu'il a raison. Désormais convaincu que le vrai auteur du Zohar, c'était Moïse de Léon, il est allé chercher les preuves dans les œuvres de ces kabbalistes espagnols du XIIIe siècle en trouvant deux passages de très grand intérêt. Premièrement, le mystérieux livre de Kasdiel, vous vous souvenez, rappelé dans les Zohar et cité dans les Sod Yetziat Mitzrayim, secret de l'issue d'Égypte qui fait partie du Mishkan HaEdut, ouvrage de Moïse de Léon, comme ayant été retrouvé dans une grotte au désert, ce qui permet à Kasdiel de devenir un grand magicien sans pareil dans son époque. D'autre part, dans les Sefer HaRimon, le livre de la Granade, commentaire kabbalistique sur les préceptes, qu'on peut lire dans l'édition d'Eliot Wolfson, on trouve non seulement que le Yadoua est un oiseau, mais on trouve aussi une citation littérale du Mishneh Torah de Maïmonide à l'appui. Dans le virement de l'attitude de Scholem par rapport aux déductions de Ginsberg, qui, si c'était le seul argument, ce qui n'est pas du tout le cas, contre la datation haute du Zohar, ne sont pas vraiment contraignantes. On pourrait imaginer, pour amour d'hypothèse, une influence inverse du Zohar sur Maïmonide, hein, je l'ai dit en plaisantant. Ou bien une polygénèse, c'est-à-dire l'indépendance réciproque des deux textes, dans les procès de construction d'un argument bien plus complexe qu'on lit dans un chapitre célèbre des grands courants de la mystique juive de 1941, on peut insérer aussi cet épisode, la voix d'un oiseau qui, comme l'âne de Balaam et comme son maître, est forcé à dire la vérité bien au-delà de ses intentions. Le Yadoua, au nom paradoxal des connus, su, trahi ou révèle, si je ne me trompe pas, ce qu'il y a d'inconnu, d'encore inarticulé, dans chaque savoir. Je vous remercie.